C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
On a vraiment, en tant que société, de très gros enjeux de santé mentale.
Il y a Stromae qui a arrêté pour ces raisons-là.
Ouais, je l'ai dit,
excuse-moi, ouais. C'est ça. Fait que, ça se peut tout à fait que ce soit ça aussi, là, ces enjeux-là.
Puis tu vois, ce matin, quand vous prenez un journal puis vous l'ouvrez à la page 5, vous allez voir de plus en plus de jeunes anxieux. C'est ça le titre. Mmh. Et on parle de la consommation d'antidépresseurs qui a une hausse marquante chez les jeunes.
Et c'est quoi un antidépresseur? C'est comme du Valium ou pas du Valium?
Un antidépresseur, c'est
Cipralex, ouais. Toutes ces affaires-là.
Il y en a énormément.
Rivotril,
T'en prends, Normand, toi?
Oui, mais tout en même temps.
OK.
Toute la gagne après l'autre.
Je suis pas sûr,
c'est ça.
Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un point tournant qui est la pandémie, évidemment. Malgré le contexte post-pandémique, on réalise qu'il y a une hausse de 10% par rapport à l'année dernière, de prise d'antidépresseurs chez les jeunes de 17 ans et moins.
C'est énorme.
C'est énorme. Mais ce qu'on comprend, c'est que dans le cas des jeunes en particulier, c'est pas juste à cause de cas de dépression. Quand il y a des troubles anxieux, on va aussi prescrire un antidépresseur. Donc, ça pourrait être dans ce cas-ci, ou en tout cas à cause de ce diagnostic-là, qu'on voit que ça a augmenté drastiquement. Il y a une médecin à qui on a parlé, une pédiatre, Valérie Labbé, dans le journal, qui dit « Moi, pour vrai, je ne suis pas étonnée par ces chiffres-là. Je le constate au quotidien. Il y a une augmentation fulgurante de jeunes qui ne vont pas bien. » Et ce qu'elle explique, entre autres, c'est suite à la pandémie, il y a énormément d'anxiété et énormément de détresse, non seulement chez les jeunes, mais aussi chez leurs parents. Dans le cas du texte, dans le journal, c'est vraiment le problème chez les jeunes. Ouais. Et ce qu'on dit, c'est que, bien évidemment, à place de prendre des antidépresseurs, il faudra aller consulter des psychologues, des psychiatres, mais il y en a tellement
plein. Oui.
Et donc, c'est tellement compliqué à avoir un rendez-vous qu'on finit par aller chez le médecin et à prendre des médicaments en attendant.
On en avait parlé la semaine dernière, l'autre avant, sur le fait que l'accès aux pharmaciens est bien plus facile qu'à un psychologue. Et c'est pour ça qu'on a plus facilement accès aux médicaments. Oui. J'enlève rien à l'importance du médicament, mais la consultation serait quand même prioritaire.
Il y a Patricia qui est en ligne, qui est enseignante au Cégep de Terrebonne, qui veut réagir ce matin. Salut, Patricia.
Salut, Martin. Vous allez bien?
Ça va très bien, Patricia. Toi, tu constates quoi exactement?
Ben, moi, dans mes classes, il y a de plus en plus d'étudiants avec des troubles d'anxiété, de l'anxiété de performance, de l'anxiété généralisée. Moi, c'est sûr qu'au cégep, là, ils ont un petit peu plus de 17 ans, ils ont 17 à 20 ans en moyenne.
Des jeunes adultes.
Ils arrivent avec des diagnostics. Ça n'a pas tombé la veille de leur admission au cégep, ça.
Non.
Puis c'est invalidant, là. C'est envahissant au point où ils doivent avoir des mesures adaptatives pour les examens.
Quand même.
Un tiers de temps plus, par exemple. Puis il faut faire attention à comment on rapporte les notes, comment on parle de nos corrections, comment on parle et qu'on prépare les étudiants aux évaluations.
Ah oui, hein?
Est-ce que tu trouves, Patricia, qu'il y a une différence par rapport à avant la pandémie?
Moi, ma théorie bien personnelle là, de travailleuse sociale, là, c'est que j'ai l'impression qu'on partait tout avec un plus 2, plus 3 de notre niveau d'anxiété de base quand on était à pandémie. Tu sais.
Ouais.
Si moi, j'étais anxieuse à 8 sur 10, ben pendant la pandémie, j'étais à 10. Mais tout le monde n'est pas revenu à moins 2,
c'est
moins 3 après la pandémie.
Ben oui, parce que tu vois, Patricia, il y a Vanessa qui nous a écrit sur la messagerie texte. Elle a dit, moi, ma fille, elle avait aucun problème de socialisation. Elle allait à des manifestations, à des shows et à la COVID. Elle a fait le cégep à distance. Elle n'avait plus nécessairement de vie sociale. Et ça fait qu'aujourd'hui, elle est de retour au cégep, mais sous médication, parce qu'elle doit gérer son anxiété d'être en foule. Elle n'est pas capable.
Merci, Patricia. Merci ton témoignage. Mais il y a aussi Alex qui veut réagir ce matin. Salut, Alex.
Salut. Moi, je travaille au secondaire.
Ouais, puis comment ça se passe au niveau secondaire? Est-ce que tu es comme Patricia, tu en constates plus?
Ah, vraiment. Puis dans les examens, depuis une couple d'années, j'en ai plein qui braillent. J'en ai qui ont mal au cœur, qui veulent sortir parce qu'ils sont pas prêts à gérer le stress. Leurs parents, toute leur vie, les mettent dans de la ouate, puis leur apprend pas à gérer les émotions comme négatives. Le fait d'être stressé, le fait d'avoir de la peine, le fait d'être fâché.
Mais Alex,
au lieu de ça...
Ben c'est gros ce que tu dis là, parce que ça veut dire donc on leur enlève des outils, parce que du stress dans la vie, ils vont en avoir là pour vrai. C'est, on pourra pas l'éliminer tout le temps en avant d'eux autres, donc on leur enlève un outil pour évoluer, c'est ça là que tu dis là.
Ben vraiment. Tu sais, c'est sûr que tu peux en avoir de la peine d'envie, de la colère, etc. Mais si tu n'apprends pas à gérer ces affaires-là, ben, à place, ce que tu vis, c'est de l'anxiété. Puis ça, c'est vraiment déstabilisant, là, de te mettre à suer pendant un examen, de perdre tous tes repères. Mm-hmm. C'est pas.
Mais toi, Alex, mettons, t'as un élève qui pleure pendant un examen, tu réagis comment comme prof?
Ben, ça m'est arrivé d'aller le voir, de dire, OK, si c'est une question de temps, ben, viens dans mon bureau finir l'examen après. Si t'es pas prêt, ben, tu sais, mets tes deux pieds à terre, prends une grande respiration, puis ben ouais. Regarde. Tu sais, des trucs de pleine conscience là pour essayer de les ramener au moment présent, puis pas plus tard. Là.
Hey Alex, c'est troublant. Merci d'avoir pris du temps pour nous. C'est apprécié ce matin.
Merci.
Ben, pour vrai, des élèves qui pleurent
c'est
pendant
fou,
l'examen.
Hein? Vraiment. Dans le journal...
J'ai déjà été stressé par des examens, mais à un moment donné, faut que tu passes cette étape-là.
Ouais, mais
non?
S'ils n'ont pas les outils pour passer par-dessus, c'est ça le problème. S'ils l'ont pas, si on ne leur a jamais enseigné, comment tu veux qu'ils passent par-dessus, tu sais? Bref, dans le texte, dans le journal, là, il parle évidemment de cette hausse-là de consommation d'antidépresseurs chez les jeunes en disant, premièrement, le recours à la médication, ça devrait toujours être accompagné d'un suivi par un intervenant en santé mentale. Il ne faut pas prendre à la légère le fait de prendre des antidépresseurs, considérant le fait qu'il y a un sevrage par la suite, parce que ça peut être difficile de s'en sortir de ces médicaments-là. Cela dit, quand on est rendu à cette solution de dernier recours-là, entre guillemets, c'est ce qu'on dit dans le journal, il faut les prendre.
Mais il faut dire
voilà.
Que ça aide pas quand tu vas à l'école, puis tu as un grand tarlac qui est plus grand que les autres, puis qui décide de crisser une volée pendant que tout le monde filme, puis le monde des gens font rien. Je veux dire, il y a cet élément-là aussi, là.
Ça joue dur, effectivement. Ouais. Merci, Normand, de le mentionner. 7h11 dans un instant. Merci tout le monde de vos nombreux témoignages sur la messagerie texte. Puis c'est clairement un problème auquel on est confronté. Il n'y a pas de solution évidente nécessairement ce matin.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Avec le Doc Michael Bensoussan.
Non, jamais entendu parler.
Salut Doc.
Bon matin.
Pour la première fois de ma vie cette semaine, j'ai pris des réactines.
Il était temps.
J'ai commencé à avoir des allergies. Les réactines fonctionnent pour le moment, mais avoir Val-Morvé depuis des années, je me suis dit que c'est peut-être le moment de parler allergie avec toi, le Doc Michael Bensoussan, pour démêler tout ça. Salut Michael.
Salut, ça va bien, ça va mieux.
Ça va beaucoup mieux. Pour vrai, moi, c'est une révélation. Là. Le grattement dans la gorge qui est parti.
Bon.
Écoulement nasal impromptu à tout moment de la vie. Et on lit un peu partout que les allergies, c'est de plus en plus fréquent.
C'est vrai. C'est d'autant plus vrai dans certains endroits du monde, mais le Québec en est un. Faut que les gens comprennent que les allergies, ça va être une réaction du corps. Ben, quand on est dehors à certains allergènes qui flottent et qui sont emmenés par le vent et qui en général sont des allergènes d'origine végétale. Ouais. Là, par exemple, on est dans une période très herbe à poux, par exemple. Ouais. Alors, les auditeurs qui nous écoutent et qui sont en train de se moucher les yeux rouges en pensant à la maudite herbe à poux, on a une grande pensée pour vous. Mais il y a aussi des allergies qui peuvent devenir chroniques et qui, en général, sont liées à des allergènes qu'on va retrouver plutôt dans les intérieurs. Ça va être les moisissures, terrible ça, les moisissures, les acariens ou tout ce qui va être les poils de chien, les poils de chat, ce genre de choses. Et alors, là où ça va devenir un petit peu compliqué, c'est que, en fait, c'est quoi un des risques des allergies? Parce que on peut pas vraiment mourir de ces rhinites chroniques. On peut mourir de certaines allergies qui sont les chocs anaphylactiques, les réactions anaphylactiques qui nécessitent qu'on injecte l'épinéphrine, mais ça, c'est autre chose. Là, on parle des rhinites chroniques avec les yeux qui pique, les yeux qui coulent, le nez qui coule, etc. Un des risques, c'est que ça se transforme soit en sinusite chronique, soit en de l'asthme, avec les poumons qui vont sciller, etc., etc. Et si on a une sinusite chronique qui est d'origine allergique, si jamais il va y avoir un professionnel de santé ou un médecin qui va y penser, ça passe pour une sinusite chronique. C'est traité avec des antibiotiques et des corticoïdes de temps en temps quand ça va très mal, mais ça n'est jamais traité comme une allergie comme telle. Donc la cause numéro un de qu'on retrouve de plus en plus chez les gens qui ont ton âge, 36 ans.
Non, ça c'est mon âge.
Ah, ça c'est... 30, j'ai 24, moi.
Quand on retrouve de plus en plus chez des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans, des allergies qui sont chroniques, c'est parce que ça avait été faussement pris auparavant pour des maladies bronchopulmonaires ou de la sinusite chronique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que de plus en plus, on se rend compte que les prédispositions génétiques, ça, c'est majeur. Quand on est dans une famille d'allergiques, globalement, au Québec, on a entre 2 et 15 %, ce qui est pas fou,
ouais,
d'être allergique quand on n'a personne d'allergique dans la famille. Ce chiffre monte à 40, 60 %, ce qui est fou, lorsqu'on a au moins un des deux parents qui est allergique.
Presque sûr.
Ben oui. Caroline, sur la messagerie texte, est-ce qu'on peut devenir allergique à quelque chose du jour au lendemain? Alors, il y en a beaucoup qui se découvrent de nouvelles allergies.
Alors, du jour au lendemain, le phénomène allergique, c'est que d'abord, on va être exposé un certain nombre de fois, de une à une dizaine de fois, à un allergène, et on va peut-être faire des réactions allergiques dont on ne s'est pas forcément rendu compte. Des fois, on a juste l'impression que ça pique au fond de la gorge, ou que, en fait, tiens, j'ai les yeux qui pleurent un peu. C'est des mini réactions allergiques, mais au bout d'un moment, parce que on vieillit, parce que on va rencontrer d'autres allergènes dont on n'a aucune espèce d'idée, puisque tout ça rentre encore dans ce dont on parle souvent, que ça se mélange avec la pollution atmosphérique qui va forcément jouer un rôle inducteur là-dedans. Et ben, un jour, on va faire une réaction allergique où on va clairement identifier que c'était une réaction allergique. Mais c'est pas la première fois qu'on est exposé à l'allergène. C'est juste, ça a passé un cap où on s'en rend compte.
Ouais, Roxane Leduc, elle dit, après avoir accouché, j'ai commencé à être allergique à mon chat. Et elle a raison, après les grossesses, les femmes, les allergies, c'est vraiment particulier.
Exactement. Alors, n'oublions pas que le tabac est un facteur vraiment aggravant de l'allergie. Alors, Martin disait qu'il s'est traité avec la réactine. C'est parce que le traitement des allergies, c'est justement soit mettre des petites gouttes dans le nez qui vont contenir un peu des vasoconstricteurs pour que les vaisseaux se contractent et que ça arrête de couler. Parce que le nez qui coule, c'est ça, c'est les vaisseaux du nez qui se dilatent beaucoup. Mmh. Soit prendre tous les médicaments de la famille des antihistaminiques. Donc, parce que... le Benadryl, la réactine, cétirizine, tout ça, c'est parce que c'est des médicaments qui vont agir sur l'histamine, l'histamine étant le chef d'orchestre, si tu veux, de ce qui va être la réaction allergique. Attention, l'effet secondaire de ces médicaments, c'est que ça peut faire dormir. Mais il n'y avait pas grand-chose pour se sauver des allergies jusqu'à présent. Il fallait faire, en fait, les processus de désensibilisation, vous savez. C'est-à-dire, on faisait des tests où on identifiait quel était le produit qui nous rendait allergique. Et en fait, on en donnait pendant 1 an, 2 ans, des doses croissantes, des toutes petites doses, pour justement qu'au bout d'un moment, le corps fabrique les anticorps, les bonnes cellules, et qu'on se retrouve à pouvoir tolérer cette allergique-là. Mmh. Mais depuis 20 ans, 30 ans, ça n'avait pas beaucoup évolué, mais on a eu un article cette semaine très intéressant, qu'il y a plusieurs entreprises, dont une au Québec, qui s'appelle Engany, qui est en train, par exemple, de développer au Québec, tout ça est québécois, un vaccin contre l'allergie au chat, qui utilise une toute nouvelle méthode, qui est la méthode des e-bioparticules. Donc, c'est vraiment un phénomène de vaccination, où on va t'injecter des produits qui vont être 1000 fois plus efficaces que la désensibilisation. Et en faisant ça, plusieurs injections, et c'est très bien toléré, on va pouvoir, justement, tolérer son chat, tolérer tous les chats. Mmh. Et ça marche tellement bien qu'ils sont déjà en train d'essayer de travailler sur les acariens ou sur les poils de chien ou, évidemment, au Québec, sur les arachides.
Wow, ben c'est québécois.
Donc, c'est québécois et c'est en cours de développement. C'était un article dans Le Devoir.
Ouais,
mais c'est une entreprise et une méthode très moderne et très, très prometteuse.
Incroyable. Allons-y avec les questions des auditeurs.
Absolument.
Ginette sur la messagerie texte. Une question pour le doc. Pour ceux qui font des migraines, qui sont accompagnés de symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux d'un AVC.
Oui.
Quels sont les conseils pour prévenir ou éviter d'en faire avec nos habitudes de vie?
Alors,
Alors,
n'oublions pas que, Ginette, pour l'AVC, il faut faire la méthode vite. Enfin, on voit si on peut lever le bras, si on peut gonfler la bouche, si on arrive à parler, tout ce genre de choses-là. Donc, est-ce que Ginette a fait cet acronyme vite et s'est rendu compte qu'elle avait des déficits neurologiques pendant les migraines? Ça se peut. C'est rare, mais ça se peut. Ginette, évidemment, si vous avez l'impression que vous avez des déficits neurologiques, consultez, parce que avant les AVC, il peut effectivement y avoir des AVC transitoires qu'on appelle les AIT, les accidents ischémiques transitoires, où en fait un petit caillot va boucher une artère, mais va s'en aller, et c'est très annonciateur d'un vrai AVC.
Voilà.
Mais c'est plutôt rare. Je voudrais quand même rassurer, la plupart du temps, ce sont uniquement des migraines. Pour faire la part des choses, au bout d'un moment, faut aller voir le médecin de famille et consulter un neurologue.
toujours sur la messagerie, il y a Anna qui demande, est-ce qu'il y a une place au Québec où on peut avoir une chirurgie des hémorroïdes avec le laser?
Alors, je peux pas faire de publicité, mais c'est vrai qu'au Québec, malheureusement, le traitement des hémorroïdes est un peu un parent pauvre par rapport à d'autres endroits dans le monde, probablement à cause de la pénurie des médecins, où on doit d'abord s'occuper des cancers et des accidents et de la route, puis s'il reste du monde, on s'occupera des hémorroïdes. Hein, d'accord. Et
ouais.
Mais il y a des places, notamment sur la rive sud. Il y en a plus sur la rive sud qu'à Montréal, étonnamment, qui s'occupent du traitement des hémorroïdes. Alors, le traitement des hémorroïdes, il y en a plusieurs. Le laser en est une. Je ne sais pas si l'auditeur ou l'auditrice et l'auditrice.
Anna, ouais.
Anna, je ne sais pas si Anna, elle a lu quelque chose qui pense que le laser, c'est mieux que d'autres choses, mais à date, le traitement des hémorroïdes, le meilleur traitement des hémorroïdes par rapport au laser, ça va rester quand même la ligature élastique, le bending, où on met un petit élastique à l'intérieur qui va faire remonter l'hémorroïde et le phénomène de cicatrisation va faire que l'hémorroïde ne redescend plus. C'est vraiment le mieux. Mais si Anna souhaite du laser, ça se fait encore dans exactement les mêmes centres par les mêmes opérateurs.
Okay. Michael, en terminant, on va y aller avec un saviez-vous que. La première page du Journal de Montréal de ce matin parle d'une femme qui a subi une greffe de foie.
Oui.
Et on est tous surpris de le foie. Elle a eu le foie d'un homme de 88 ans, alors qu'elle en avait 19. Et elle vit donc avec un foie de 108 ans.
Absolument. Alors, saviez-vous que aujourd'hui, 17 octobre, est la journée mondiale de sensibilisation à la greffe d'organes? Et saviez-vous que le foie est l'organe du corps qui se régénère le plus du plus du plus?
C'est le seul qui
En théorie, le foie est en dehors du corps, d'accord? Ex vivo pourrait vivre 150 ou 200 ans.
Ah, ouais.
C'est d'ailleurs à cause des capacités de régénération du foie qu'on fait une cirrhose. La cirrhose est une conséquence du foie qui se régénère, si vous voulez, beaucoup trop et qui fait un phénomène de grande cicatrisation interne qui fait qu'au bout d'un moment il sera tout fibreux. C'est ça la physiopathologie, donc le mécanisme qui aboutit à la cirrhose. Donc effectivement, quand on doit recevoir une greffe d'organe, il y a une limite d'âge, parce que quand tu as très bien dit subir une greffe d'organe. D'habitude, on dit bénéficier. Mais une transplantation d'organe, c'est
une énorme chirurgie.
C'est vraiment quelque chose. C'est pas rien. Donc, effectivement, à 60, 65 ans, on arrête de transplanter les gens parce que l'organisme ne pourra pas encaisser une telle chirurgie. Par contre, le foie comme tel, oui, la personne, si elle était en bonne santé, avait une bonne vie et que le foie va bien, on peut greffer un foie de 70, 80 ans. Il lui reste encore beaucoup à vivre.
Wow.
Dans le Journal de Montréal, cette personne qui a eu un foie au moment de la greffe, la personne avait 80 et quelques années.
88.
C'était il y a plus que 20 ans. Maintenant, son foie, il a passé 100 ans. Et la personne, elle a fait des enfants.
Et elle court un
très haut niveau. Elle est sportive, athlète.
Ouais.
Donc, avec ce foie-là, qui pourra probablement encore te faire quelques années. Donc, effectivement, n'oubliez pas de dire à votre entourage ou de le notifier quelque part ou de le mettre sur votre carte soleil que vous consentez en don d'organes. Ouais. Ça sauve des vies. Des milliers de vies.
Michael Bensoussan, Doc, qui est avec nous à chaque semaine.
Des comiques, de retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
6h49 au 96.9, c'est quoi? C'est pas le temps de dire l'heure, comme dirait Normand Baratouet. C'est le temps de...
Jouer avec l'enfant!
OK! On joue à Piment Fort, cette émission qui ne quittera jamais l'univers.
Jamais! On l'aime trop!
Choix éternel!
Qui mourra jamais.
T'es hâte, content et un peu tanné.
Oui, oui. OK! Le prochain jeu, ça s'explique presque aussi vite que Martin Cloutier déguste un Châteaubriand. Pour deux personnes. OK. Je vous nomme quelque chose et vous me dites ça serait quoi? Le slogan honnête pour ça.
Okay.
Comme par exemple...
S'il vous plaît, oui.
Le slogan honnête pour le zoo de Granby.
Mm-hmm.
Nos toilettes sentent plus fort que nos enclos.
C'est très bon. C'est parfait.
Et ça, je trouve ça très...
C'est parfait.
Je suis de Granby.
Ah oui. Ça me fait
un peu de peine. Oh, ceci explique cela.
On y va.
Quel serait le slogan honnête pour un restaurant grec?
Nos toilettes sentent plus fort que nos enclos.
Ah ben non! Le seul prérequis pour être chef, avoir un couteau.
Quel serait le slogan honnête pour un restaurant grec?
Même la napkin goûte l'ail.
Ça, c'est clair. Tellement.
Slogan honnête pour l'aéroport de Montréal.
Ouf.
Aéroport de Montréal, 10 sur 10. Parce que c'est peu importe, tu restes pogné de 10 à 10. Ouais.
Aéroport de Montréal.
Sparky Sit, c'est plus cher et plus long qu'un voyage en Europe.
Aéroport de Montréal, moi, je dirais détour, ralentissement, mal indiqué. Un aéroport à l'image de notre ville. Oh! Oh! Oh!
Un slogan honnête pour un spectacle de magicien.
Mon premier tour à vie, faire disparaître les bouteilles de phare de mes parents. J'étais très douée.
Pour un magicien.
Tant qu'à vivre pauvre, aussi bien le faire avec des lapins et des tourterelles.
Ça se mange. OK. Un slogan. Honnête. Pour un spectacle de magicien.
Ah, l'estime de soi d'un magicien. Tadam! Disparu.
Un slogan honnête pour une partie du CF Montréal.
On fait pas de journée porte ouverte parce que les joueurs sacreraient leur camp.
OK. Pour une partie du CF de Montréal.
Excuse, tu disais quoi? Je me suis endormi à CF.
C'est pas si pire.
Un slogan honnête pour une partie du CF Montréal.
On est le Pornhub de Patrick Marcellet.
C'est qui, lui? OK. Slogan honnête pour l'émission Belle et Bombe.
Beaucoup de belles, très peu de bombes.
Tu peux aller chier. OK. Slogan honnête pour l'émission Belle et Bombe.
C'est l'occasion unique de voir Normand Brathwaite avec des convulsions sur un bongo.
Ah, oh, c'est énorme.
Tout pas ça drôle.
Attends, OK.
Attends, celle de tienne.
OK, oui. Slogan honnête pour l'émission Belle et Bombe.
Une émission remplie d'artistes de grand talent et Elisabeth Blouin-Brathwaite.
Aïe, aïe, aïe.
Ah. Aïe, aïe, aïe. T'aurais pu juste garder ça pour sa mère. OK, c'est maintenant le temps de voter sur Messenger Test. À qui on donne le piment? Val, Martin ou Étienne?
Sur le 96.9, le piment va à qui? Oh, mon Dieu, ça déferle.
Oui.
Oh là là. Je vous rappelle, dans quelques instants, on va se parler de, d'anxiété, de santé mentale chez les jeunes.
Oui, oui.
Qui va nous parler de ça. Et le piment va à...
OK. C'est chaud. Mais j'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de gars qui a regardé l'éclipse en fin de semaine et qui trouve que le soleil est quand même moins allumé que moi dans les années 80. Allez-nous tous.
Mais qui gagne?
Ben, c'est toi.
Yeah! J'ai le piment. Deux semaines d'affilée, Chelsea.
Ah, ben exactement. Être en feu, Valérie Roberts, qui est avec Étienne Marcoux dans La Zone. Vous ne voudrez pas manquer ça, la rediffusion de La Zone de Marcoux ce matin. C'est un mélange de sensualité et d'annonce de piment.
Le podcast Debout les comiques.
Vas-y, mon dôme.
Écoute. Non, c'est que hier, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo d'une pub qui date des années 80 à peu près sur un vieux jouet pour enfants. Puis j'ai trouvé ça drôle d'en sortir d'autres après. Puis je vais vous faire entendre la celle que mon chum m'a envoyée.
Tes amis t'envoient vraiment des drôles d'affaires.
Ben ouais, des drôles d'affaires. Je te dirais que c'est connu que j'aime des affaires niaiseuses de même. Mais c'est une pub pour un jouet pour enfants qui était... Le jouet, c'était pas un jouet vraiment. C'était plus une activité pour enfants. C'était pour faire un tapis à la maison, okay. Tu sais, pour les enfants, une activité là, faire comme apprendre à tricoter un peu, mais c'est un tapis.
Le métier de tisserand.
C'est ça. Sauf que là, ils ont fait, une pub là-dessus. Puis le nom du tapis s'appelle Tapitouf.
Pardonne-moi.
s'appelle.
En un mot?
Ben, en deux mots, mais un mot ou deux mots, ça je trouve qu'il y a quand même un double sens qui est pas le fun pour un jeu pour enfants. Fait que ça s'appelle Tapitouf, puis écoutez la pub. C'est sûr, craquez le volume un peu parce que le son n'est pas top qualité, là, mais il y a un petit peu de double sens quand tu écoutes la pub. On écoute ça.
Quelle chance que t'as changé dans le tapis.
Tapitouf.
Je fais mon premier tapis et il est réussi.
Tapitouf.
Ta planche saisit une touffe et je m'enfile dans le passe-touffe. Alors que je pars, ce ne passe plus.
Tapitouf.
Évidemment, reste là.
Tapitouf.
Quand j'ai assemblé mon tapis, les compliments de mes amis. Tapis, tapis, tapitouf, TNC.
Tapitouf de DNC, vos tapis
ben,
avancent tout seul.
Oh,
je prends le touffe, tu le mets dans l'enfile touffe.
Oui, tu alors...
Elle a vraiment
on va mettre le lien hein, sur le
oui.
site. On va mettre le lien.
Ouais, la première touffe, mes amis me complimentent sur ma touffe. Ben non.
Puis t'as comme un petit embout, genre, là, tu mets un morceau de touffe dedans.
OK.
Puis là, tu passes la touffe dans le trou. Puis là, la touffe, en passant l'objet dans le trou du genre de tapis, du tapis, c'est
ouais.
ça? Le tissu, c'est comme un tissu. Mais là, la touffe, elle reste là.
Ouais.
Là, tu pèses dessus, puis là, la touffe, elle s'ouvre un peu. Puis là, t'en mets plein comme ça, puis ça fait un tapis touffe.
Là, c'est le touffe. Il y avait un gars qu'on surnommait de même au cégep.
Non. Mais ce qui est spécial avec ça, c'est que... ça, c'est la toune qu'on a entendue, mais j'ai appris en fouillant un peu que Éric Lapointe avait été approché pour faire un jingle de cette affaire-là. Puis on a mis la main dessus. C'est une co-version, mais c'est pas la même toune. On peut l'écouter, là, peut-être, Éric Lapointe.
Tapitouf, tapitouf, y'a après nos enfants à faire des tapis. Mais moi, j'suis pas un tapé. Tu marcheras pas sur le corps.
C'est différent.
Mais c'est une autre type de proposition.
C'est on va ailleurs.
Ouais.
Ça va ailleurs.
Mais j'aime l'intensité.
C'est une belle intensité, mais ça va ailleurs.
Oui, ça va ailleurs.
La prochaine, c'est une pub qu'on ne pourra plus jamais voir.
Ça va? Ça fait de mots.
La prochaine, je vois-tu... on est déjà rendu à ça.
Ouais, vas-y.
Je vois-tu avec... non, je voyais là que la zigounette... ouais, c'est là.
Elle est titre, merci.
Je veux
savoir. Là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma sœur avait eu une poupée qui faisait ses besoins, qui faisait pipi.
Mm. Ouais, oui.
Sauf que là, c'est une pub. La pub, c'est zigounette pipi. Puis... On peut l'écouter, puis je vais expliquer ce qu'on... Ah non, je le dis ça avant, qu'est-ce qu'on... Je vais dire avant qu'est-ce qu'on voit. C'est parce que la poupée, c'est un petit gars, puis le petit gars, il fait pipi, sauf qu'ils ont fait un shaft. Ils ont fait un zwiz, pour vrai. C'est une poupée, mais c'est malaisant. Quand t'écoutes la...
Val, ben, regarde.
C'est juste mal... Non, mais parce que...
C'est en vache libre, ça, là.
Oui, oui, ben c'était, oui. Je te dirais que ça n'a pas dû marcher. On écoute la zigounette pipi, puis après ça, on...
La piste a déjà été un argument de vente.
OK, non, mais attends, là, j'ai googlé zigounette pipi pour voir.
C'est ça.
Et c'est un bon zizi qu'ils ont fait, là. Non, mais je veux dire, mettons, il est présent, là.
Il est là.
Il est là. Il est tout là.
Puis le pipi, il sort de là. Puis d'ailleurs...
Ah, mon Dieu, c'est
ça. Non, c'est ça. Pour vrai, je vous invite, aujourd'hui, durant la journée, prenez... Deux minutes, puis faites juste googler
zigounette pipi.
Puis à ce moment-là, écrivez-nous un message. Vous comprendrez tout. C'est gros comme un petit doigt.
Ils ont résiné un bras.
Ouais. Pauvre gars qui devait faire... Ouais, fait que faudrait que tu penses à une poupée avec un chef de petit gars, là. Hein? OK. Puis d'ailleurs, j'ai mis la main là-dessus. Éric Lapointe a fait...
Une toune
pour ça aussi, on peut l'écouter.
Oh non.
La poupée, on y voit le pénis! Ça peut être cool, les années!
Mais voilà, ça
peut... Y a-t-il quelqu'un dans ce compagnie-là qui va se réveiller? Je m'alaise!
Voilà.
C'est très bon.
Oh,
J'ai de la brume dans mes lunettes. La tribu de Daman au 96.9, c'est quoi? Éric Lapointe qui a un malade.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Il arrive de temps en temps qu'on aborde dans Debout les comiques le sujet de l'itinérance, puis on va le faire une fois de plus là, parce que c'est un dossier qui prend toutes sortes de visages, qui change, se répand aussi malheureusement. L'itinérance, ça touche maintenant des milieux où traditionnellement il y en avait plus, ou en tout cas très peu. Monsieur le juge, qui est notre producteur au contenu, c'est quelqu'un qui vit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et lui nous raconte, à un moment donné, en début de semaine, en fait, peut-être en fin de la semaine dernière, il commence à nous parler de dans son circuit de jogging à chaque jour où il va faire de la course. Il nous dit qu'il court à chaque jour. Moi, je pense qu'il en fait en char de temps en temps, mais bon, peu importe. Mais à travers son circuit de course à pied, donc, depuis quelque temps, il croise quelqu'un qui est visiblement un itinérant, qui dort en dessous d'un pont dans ce coin-là. C'est bien ça, Sébastien?
Ah oui, c'est vrai ça.
Sébastien, donc, qui croise cette personne-là, et on est rendu à l'automne, tu comprends? Fait que quand tu cours au mois de juillet puis que tu croises cette personne-là, c'est une chose. Mais là, lui, Sébastien, ce qui l'a frappé, c'est le temps s'en va vers l'hiver de plus en plus, et lui semble pas bouger de place là.
Mais le gars dort en dessous d'un pont à Saint-Jean, sur le bord de la rivière, déjà, tu sais, un bord de rivière.
C'est cru, comme disait ma mère.
C'était un peu coupé du vent parce qu'il est en dessous du pont, mais.
Déjà d'être à Saint-Jean, t'es coupé du monde.
C'est froid, exactement. C'est très mauvaise place pour être itinérant, pour vrai.
Mais en fait, ce qui est troublant dans ce que tu nous racontes, Sébastien, c'est que la question que tu as, on l'a toute entière, il n'y a personne qui a une réponse. Comment on aide quelqu'un qui est en situation d'itinérance comme ça? Lui, tu as-tu déjà parlé, mettons, cet itinérant-là, ou t'oses pas?
Mais non, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, je le vois, puis je vois les températures dégringoler, je commence, moi, à m'habiller plus chaudement pour courir, j'ai froid aux mains quand je cours, puis lui, là, il dort dans un sleeping, tu sais, juste avec ses souliers à côté. Puis, tu sais, non, j'ai jamais parlé, je l'ai déjà vu se parler tout seul, tu comprends? Fait que là, c'est tout
fait que
ça.
Tu devines que
j'ai déjà vu des policiers lui jaser, tu sais. Puis là, je disais à ma blonde, comment on fait pour aider ce gars-là? Tu sais, qu'est-ce qu'il a besoin, premièrement? Tu sais, si tu es un autre sleeping, si tu des manteaux, si tu des vêtements, si tu de la bouffe, si tu de l'argent, c'est quoi?
Puis comment tu l'abordes aussi, tu sais?
Exact.
Est-ce que tu vas, si, mettons, il est sous le pont, peut-être qu'il veut pas avoir nécessairement de contact avec les autres, puis peut-être que ton aide, il la désire pas, tu sais? Fait que comment est-ce que tu l'abordes au tout départ en disant, écoute, je te vois toujours quand je cours, as-tu besoin de quelque chose? Mais si ça lui convient pas, c'est-tu la bonne manière de faire? Je serais comme prise, moi aussi.
Mais on n'est pas formé pour faire ça non plus.
Non,
je veux dire, là, est-ce que je passe par les policiers? Parce que
eux le
connaissent manifestement, parce qu'ils le laissent là. T'sais, ils savent qu'il est là, ils sont intervenus avec,
Est-ce que le froid va le déplacer? J'ai pas cette expertise-là. T'sais, est-ce que, à un moment donné, ça va être invivable pour lui, là, puis il va aller dans les refuges qui existent, je présume, à Saint-Jean, comme à plein d'autres endroits?
Hier soir, là, j'ai couru jusqu'à ce qu'il fasse noir. Là. T'sais, à 18h05, je suis rentré à la maison. Fait que donc, je suis passé devant lui, il était quelques minutes avant, tu sais. Puis il est encore là, dans son sleeping. Là.
Écoute, Sébastien...
Il n'y a rien qui m'indique qu'il passait la nuit ailleurs que là, tu sais.
Pour vrai, moi, là, je ne sais pas comment réagir. Puis je serais curieux, parce que je sais que parmi nos auditeurs, il y en a des intervenants sociaux, il y en a des travailleurs de rue, probablement, qui nous écoutent. Est-ce que c'est même eux autres... Est-ce que c'est même eux autres qui vont nous les donner? C'est le truc à M. le juge pour aborder cette personne-là ou pas? Peut-être que le fait d'en parler, ça va amener de la lumière sur cette personne-là en dessous du pont, je ne sais pas. Là.
Parce que même Amélie Akin, sur la messagerie texte, a dit « Merci pour la question. Mon père vit là. » Même chose. Et justement, elle dit, moi puis mon père, on se demande comment aborder la personne que l'on croise toujours au même endroit. C'est vrai que ça devient très délicat.
Mais tu sais, on l'a vu récemment, tu sais, avec les maires qui sont sortis justement pour l'itinérance. C'est manifestement du ressort des municipalités. Fait que peut-être que d'appeler à la ville, c'est, tu sais, ils ont des travailleurs sociaux, j'imagine. C'est peut-être une piste de solution.
Sur la messagerie, il y a David qui écrit, j'ai un ami qui est travailleur de rue à Saint-Jean, justement. Fait que tu sais, je pense que les équipes, même maintenant, qui s'éloignent, en fait, les municipalités plus éloignées de Montréal, commence à s'équiper de ce genre d'intervenants-là. Tu sais.
Ils n'ont le choix, mais c'est une super question que tu lances là, Sébastien. Merci de le faire. Et il y en a plein là, des réponses qui fusent, mais en même temps, il y a plusieurs couches là-dedans. Y a-tu des enjeux de santé mentale? Puis la personne, c'est un adulte, elle a le droit de refuser tous les traitements de la Terre, là, pour vrai, et même toutes les interventions. Est-ce qu'elle commet quelque chose d'illégal? Là, on est au niveau de la police, au niveau de... Je ne sais pas par quel bout de prendre ça, mais c'est clair que c'est une réalité qu'on voit de plus en plus et qui se répand à des endroits, comme je le dis, il n'y en avait pas avant. À l'Assomption, là, il commence à en avoir. Puis il y en a dans d'autres petites municipalités autour de Montréal.
Dit, peut-être commencer par dire bonjour, ne serait-ce que pour établir le contact.
En tout cas, pour le moment, M. le juge a fait
« Fuck off! »
Le podcast Debout les comiques.
L'université McGill fait jaser d'elle et Valérie, ça t'interpelle beaucoup ce dossier-là, mais ça nous interpelle vraiment un peu tous parce que l'université a pris une décision hier, on dirait qu'ils font de la politique.
Et c'est bien fâchant. À la fin de la semaine dernière, là, pour vous remettre dans le contexte, oui, le ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascal Derry, oui, déclare que les nouveaux étudiants canadiens hors province vont voir leur droit de scolarité doubler l'année prochaine. Il faut savoir que dans les universités à travers le Canada, c'est le Québec qui est le moins cher et de loin. Fait que donc, ils vont voir leurs frais de scolarité passer de 8 992 $ à environ 17 000 $ et les droits de scolarité des étudiants internationaux, ça va être minimalement de 20 000 $ par année. Madame Derry, donc la ministre, dit que cette augmentation-là, c'était un moyen d'équilibrer le financement des universités de la province.
Parce que ça, c'est nous qui les finançons, les universités, avec notre argent, les travailleurs québécois. Ouais. Là, c'est nous, on finance McGill, puis c'est correct, là. Mais donc, il y a d'autres Canadiens de d'autres provinces qui venaient profiter de tarifs bas,
voilà,
d'un tarif d'éducation bas, puis qui repartaient dans leur province après, quand le diplôme était acquis, là.
Puis ce qui est fâchant, c'est qu'en réponse à ça, l'Université McGill, qui était sur le point d'investir 50 millions de dollars pour enseigner le français, oui, aux étudiants, mais aussi aux professeurs et au personnel, dans le but de s'intégrer pleinement dans la société québécoise, ben ils annulent le programme de francisation. Sous prétexte que le financement initial pour l'investissement de McGill dans la promotion du français, ça avait été difficile à avoir, puis que là, les trois universités anglophones du Québec, McGill, Bishops et Concordia, disent la décision du Québec aura des conséquences financières importantes, voire dévastatrices pour nous. Hmm. Et cette semaine, mercredi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit que ça va dissuader les étudiants de venir à Montréal, que ça va les pousser vers d'autres universités, ouais, que ça va nuire à l'économie de la métropole. Selon elle, ça porte un dur coup à la réputation internationale de la métropole du Québec. Elle a dit que c'est une atteinte à la réputation de Montréal en termes de ville universitaire, de ville d'accueil, de ville qui veut se démarquer à l'international au niveau économique. Oui, les universités sont mobilisées pour faire rouler notre économie, mais
il n'y a rien qui justifie qu'on finance les études d'un étudiant d'une autre province à rabais, puis que nous, on paye pour ça. Là. Ils diront ce qu'ils voudront. Là. Voyons, ça va.
Puis pas juste ça, je voudrais rappeler à McGill, t'es pas une université privée. T'as pas d'affaires à agir comme si tu l'étais. Ce sont nos impôts qui payent, Martin, comme tu l'as dit, les programmes de McGill. Puis moi, ben, c'est niaiseux, mais ça m'écœure qu'il y a des étudiants canadiens qui viennent ici payer moins cher pour l'université, qui s'investissent pas dans la culture de ma province, puis qui décalissent avec un bac à rabais pour finalement travailler dans leur province.
Valérie, puis à part de ça, la réciproque n'existe pas.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas, moi, comme étudiant québécois, un rabais pour aller à Simon Fraser en Colombie-Britannique ou aller à York. Il y en a pas de ces rabais-là. C'est nous autres les clowns de la farce là-dedans. Là.
Concernant la coupure du programme français de McGill, j'aimerais aussi rappeler que le Québec, ce n'est pas une province bilingue.
Pantoute.
La seule province bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Puis l'université, là, c'était à Moncton. Sans offense à eux, là, d'après moi, il y aurait moins de monde. Quand t'as 20 ans, Moncton, c'est pas mal moins attirant que le nightlife puis la vie culturelle d'une métropole comme Montréal. Oui, on a besoin des étudiants et de l'économie qui vont engendrer puis qui vont faire rouler.
Ils vont continuer de venir.
OK. Mais je pense que les Québécois, on mérite plus que des étudiants qui passent chez nous, qui retournent chez eux avec des anecdotes sur les brosses qui ont viré à Montréal, man. C'est inacceptable.
Le podcast Debout les comiques.
Hey, je vais vous dire une affaire, Sarah, là, c'est une bombe d'énergie, OK? Pour vrai, elle est toujours allumée au bout. Mais à matin, c'est la première fois que je te vois un peu nerveuse.
Ben, la première émission, j'étais vraiment nerveuse
aussi.
Oui,
c'est ça. Mais là, écoute, on fait ça pour s'amuser, ma chère
ben
Sarah.
Oui.
On demandait aux auditeurs à 6 heures de nous envoyer des mots. Il y en a plusieurs qui ont envoyé, on en a retenu 6. Je vous dis les mots en question et Sarah les a intégrés dans une chanson spontanée qu'elle va nous faire dans un instant. Comment peuvent se marier les mots ambigus, brunantes, laxatif, barbe à papa, casserole et linen chest.
Linen chest, c'est dur, là.
Ah, c'est pas si.
Lequel vous trouvez le plus dur à intégrer?
Laxatif, peut-être.
OK, parfait.
Non, parfait.
Mais tu sais, c'est ça. Hein?
Sarah, à chaque fois...
Oui, vas-y. Non, mais tu sais, en voulant dire qu'il faut essayer des affaires.
Oui,
moi, maintenant, il faut que je me sorte de ma zone de confort. Tu sais, c'est bien beau, je t'assieds sur ma nouvelle chaise, là, mais maintenant, faut que je me lance dans le vide un peu. T'sais.
La chaise, elle roule, puis toi, avec, tu roules. Je veux dire. À chaque fois que tu vas avoir réussi un mot, je vais faire une petite cloche comme ça, discrète, pour dire que c'est réussi. Comme,
sois attentif, Martin, ça va aller vite. Non, ça va. Le rythme est bon, le rythme est bon.
Parfait. Alors, Sarah, à toi dans 3, 2, 4.
Il y a même une petite intro, check bien ça. Check bien ça, toi. Ouh! À matin, j'ai pas ben le choix. Sans filet, live, c'est quoi? Je vous improvise une toune. Au pire, j'ai l'air d'un clown, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, hein? Je travaille avec des niaiseux. Fait que je fais comme eux. Je me suis levé à la Brunante, prête pour le party chez ma tante. De la bière direct d'un casserole. On fête fort chez Carole. Fait chaud en tas. Oh, fait chaud en tas. Mes cheveux ont de l'air. Mes cheveux ont de l'air à de la barbe à papa. Oh, yeah! Oh, yeah! Le voisin.
Vas-y, t'es capable.
Le voisin, monsieur Gladu, encore une fois ambigu. Pauvre goyer malade en crisse. Pire qu'avec quelqu'un. Blablabla. C'était long. Pire qu'avec un laxatif, mais y a pas de stress. Ah, y a pas de stress, hein? Le bonhomme, il s'en va faire une sieste. Ah! Dans un linen chest. Yeah!
Très fort! Bien joué, Sarah Dufour, mesdames et messieurs, qui vient d'improviser une toune live devant nous autres.
Bienvenue sur la messagerie texte, me dire que les gens réagissent immédiatement aussi. Valérie Pouliot, oh my God, Sarah, t'es parfaite, girl. Alexandra Sabot, ben voyons donc, écrit en 40 minutes, puis c'est solide.
Ah ouais, mais j'aime ton riff.
Le riff,
c'est le fun dans ta barouette.
C'est intéressant, un peu la Johnny Cash.
Très, oui, très intéressant, oui. Effectivement.
La semaine prochaine, tu le refais, mais juste avec des prénoms. C'est Titi!
Le podcast de Boulet Comique.
C'est 23.